France Info.
Les zadistes estiment que rien n'a bougé et que l'État campe sur ses positions. Le ministre Nicolas Hulot appelle les opposants à saisir la main du gouvernement. On en était resté là hier, après la dernière réunion de concertation à Notre-Dame-des-Landes et après 10 jours d'opérations de gendarmerie sur l'ancien site du projet d'aéroport. Damien Triomphe, vous êtes ce midi dans la préfecture de Loire-Atlantique à Nantes. Où avait lieu la réunion hier et où les opposants manifestent ce midi? Comment se passe, Damien, ce rassemblement?
Eh bien, un tracteur avec une remorque est arrivé devant la préfecture avec une dizaine de gros sacs à l'arrière remplis de grenades. Les grenades utilisées, les cartouches de gaz lacrymogène utilisées sur la ZAD depuis le début des affrontements, toutes ont été déversées sur les marches de la préfecture. Il y en a bien des milliers. Ce sont ceux qu'on appelle les médics qui s'expriment aujourd'hui devant la préfecture, ceux qui s'occupent des blessés, plus un collectif de professionnels qui intervient sur la ZAD. Et non, cette phrase ne passe pas de Nicolas Hulot, qui a salué la retenue des gendarmes. Depuis le début des expulsions et des affrontements, les médics parlent, eux, de 272 blessés côté zadiste, plus 10 évacués pour blessures graves. 11 000 grenades lancées pendant les affrontements, 8 000 lacrymogènes, 3 000 explosives. Donc ils sont là pour dénoncer ces violences. Je rappelle que côté gendarmes, on compte environ 70 blessés.
Et je le disais, Damien, il y a eu 10 jours déjà d'opérations d'évacuation par les gendarmes sur le site de Notre-Dame-des-Landes. Mais ce matin, pas de nouveaux affrontements. La situation est en train de s'apaiser.
On dirait, en tout cas, les forces de l'ordre sont toujours sur place. Elles restent là comme chaque matin, elles contrôlent les routes. Mais ce matin, pas de destruction, simplement des opérations de déblaiement et pas d'affrontement. Et ça, c'est vrai, c'est la première fois depuis plusieurs jours que la ZAD s'est réveillée sans lacrymogène, sans échange de projectiles, sans tir de grenade. Les zadistes n'ont pas remonté non plus hier soir les barricades sur les routes. Donc ce matin, en effet, la situation est plutôt calme et le face-à-face pacifique. En tout cas, pour le moment, l'Assemblée des usages, l'Assemblée de la ZAD n'est pas parvenue à conclure hier à propos de la marche à suivre face à l'inflexibilité du gouvernement. Les différentes composantes du mouvement vont se réunir pendant toute la journée pour se consulter. Et enfin, ce soir, une autre Assemblée des usages doit avoir lieu pour voir comment répondre à l'inflexibilité du gouvernement.
Comment débloquer la situation donc à Notre-Dame-des-Landes? Merci Damien Triomphe pour France Info à Nantes, avec Clémence Bonfils pour la liaison technique. Comment débloquer la situation? On va en parler avec un connaisseur, grand connaisseur de ce dossier, Hervé Kempf. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, rédacteur en chef de Reporter.net, Reporter TE2RE, et vous avez écrit un livre intitulé tout simplement Notre-Dame-des-Landes, qui est paru en 2014 au Seuil. Avec nous, Eddy Fougier. Également, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, spécialiste des mouvements protestataires et vous avez rédigé plusieurs notes, plusieurs travaux sur les zadistes pour Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique. Hervé Kempf, on a entendu le reportage de Damien Triomphe. Je citais les déclarations des uns et des autres après la réunion d'hier. Est-ce que malgré tout, une sortie de crise vous semble proche à Notre-Dame-des-Landes?
Je ne sais pas. En tout cas, il faut absolument la souhaiter. Je constate deux choses. D'une part, quand il n'y a pas d'action de force de l'ordre de gendarmes sur la ZAD, sur la zone, eh bien, c'est calme. Ça confirme bien que le désordre est créé par l'intervention du gouvernement et des gendarmes. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de discussions au sein de la ZAD, et votre envoyé spécial l'a très bien raconté, comme d'ailleurs l'envoyé spécial de Reporter nous l'a raconté. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de discussions et l'idée reste toujours d'être ouvert, de discuter, d'avancer, par rapport à un gouvernement qui malheureusement reste inflexible.
Les évacuations n'étaient pas nécessaires?
Les évacuations n'étaient pas nécessaires, elles étaient mal fondées juridiquement. Il y avait des négociations qui étaient engagées depuis janvier, février, mars, qui avançaient. Il fallait du temps, bien sûr. C'est vraiment dommage qu'on ait envoyé aussi rapidement, aussi brutalement, 2500 gendarmes qui peut-être ont d'autres choses à faire, plus utiles, à d'autres endroits dans le pays.
Alors, sur quoi portent les négociations? C'est sur les demandes de régularisation que le gouvernement demande aux occupants de la ZAD de déposer en préfecture avant le 23 avril, s'ils veulent rester sur les terres de l'ex-site du projet d'aéroport. Le gouvernement répète que la situation est très simple, qu'il suffit de remplir un formulaire. Alors, qu'est-ce qui bloque chez les zadistes?
Eh bien, c'est que ça n'est pas des négociations, c'est pas chez les zadistes que ça bloque, c'est chez le gouvernement. On le constate comme dans d'autres domaines que France Info, d'ailleurs, raconte souvent, c'est que c'est des fausses négociations que le gouvernement entreprend. Il dit on va discuter, on se réunit, et puis souvent les personnes qui sortent des réunions disent mais ce gouvernement n'a rien changé, n'a rien bougé.
C'est, encore, sur les demandes de régularisation.
C'est encore ce qui s'est passé hier avec M. Ouais. Hulot, c'est-à-dire la situation n'a pas évolué depuis plusieurs jours, c'est toujours remplissez un formulaire individuellement, sinon il n'y a rien à faire. Les zadistes répètent, il y a des projets collectifs, ils ont proposé plusieurs formules, on voit qu'ils évoluent, mais s'il n'y a pas de volonté de discuter et d'ouvrir un petit peu la porte de l'autre côté, ça devient très difficile.
Vous parlez des projets collectifs, Notre-Dame-des-Landes ne sera pas le Larzac, a dit la préfète de Loire-Atlantique, on va en parler, mais Eddy Fougier, est-ce que c'est le concept d'ultimatum donc, qui est fixé à lundi prochain, 23 avril, qui bloque aussi, qui rebute les zadistes et les occupants du site de Notre-Dame-des-Landes?
Oui, sans aucun doute, parce que effectivement, on entend tout et son contraire, à savoir le fait qu'il n'y aurait pas de nouvelles expulsions, mais il y a cette épée de Damoclès sur la tête de la ZAD et des zadistes, si effectivement ils ne remplissent pas les conditions déterminées par le gouvernement. Et puis, du côté gouvernement, il y a aussi une pression, parce que il s'est engagé à évacuer ou à expulser, pour reprendre le terme du gouvernement, la zone. Il ne veut pas apparaître de façon faible face aux zadistes, en ayant déjà donné le sentiment de céder face à eux dans la décision qui a été prise au mois de janvier. Donc il est un petit peu pris dans un étau, dans un contexte où il y a une multiplication des mouvements sociaux avec de nouveaux fronts qui s'ouvrent dans différents secteurs. Donc c'est assez complet. C'est compliqué comme négociation parce que d'un côté comme de l'autre, on est dans une position où on ne veut pas perdre la face et effectivement, le temps joue plutôt en faveur des zadistes.
Eddy Fougier, vous les connaissez bien, ces gens qu'on appelle les zadistes. Qui sont ces occupants qui veulent rester à Notre-Dame-des-Landes? Il y a des agriculteurs historiques, il y a des jeunes agriculteurs, il y a des gens qui sont plutôt dans une démarche de confrontation avec les forces de l'ordre. Expliquez-nous tout ça.
C'est assez compliqué. Et puis Hervé Kampf les connaît bien aussi. Il les a étudiés, notamment pour son ouvrage sur Notre-Dame-des-Landes.
Oui.
Mais il y a différents types de profils. Mais ce que le gouvernement, en l'occurrence, et je reviendrai sur votre question, a sous-estimé, c'est qu'effectivement, il n'a mis l'accent que sur un profil, à savoir ceux qui veulent bloquer un projet en se disant que en levant cette hypothèque, c'est-à-dire en renonçant au projet d'aéroport du Grand Ouest, ces gens-là partiraient. Et ça ne s'est pas produit parce qu'il y a une autre dimension dans ce mouvement, c'est qu'ils veulent mettre en place une alternative ici et maintenant, comme on le disait dans les années 70, dans cet espace qu'ils considèrent comme libéré, des alternatives agricoles, c'est un petit peu l'enjeu aujourd'hui, mais pas seulement, aussi en termes d'autosuffisance énergétique, d'autosuffisance en matière de logement, avec ces fameuses cabanes ou ces fameux lieux dont les noms ont été égrenés dans la presse depuis quelque temps. Donc on a ces différentes dimensions-là. Alors les zadistes en tant que tels, vous avez ceux qui...
Rapidement, Eddy Fougier, il nous reste 30 secondes avant les titres et on poursuit la discussion après.
Il y a deux dimensions. Il y a ceux qui sont en rupture avec la société de façon volontaire dans une logique de philosophie de vie. Et puis il y a ceux qui, par leur parcours de vie, qui sont plus des marginaux, ont rompu avec la société ou la société a rompu avec eux. Donc c'est un petit peu tout ça, les zadistes.
Vous restez avec nous. Nous continuons de parler de la situation à Notre-Dame-des-Landes juste après l'essentiel de l'info à 12h20 avec David Doba. La réunion de demain sera la dernière. Voilà l'avertissement lancé hier par la préfète de Loire-Atlantique aux zadistes de Notre-Dame-des-Landes. Nous parlons de cette situation toujours avec Hervé Kempf, rédacteur en chef de Reporter.net et Eddy Fougier, politologue spécialiste des mouvements protestataires. Hervé Kempf, nous parlions du Larzac. C'est l'exemple que veulent suivre les occupants de Notre-Dame-des-Landes. La préfète a dit... Notre-Dame-des-Landes ne sera pas le Larzac. Alors, pour qu'on comprenne bien, là-bas, tous les résidents et les paysans font partie d'une société civile dont le bail court d'ailleurs jusqu'en 2083. Alors, pourquoi c'est impossible à Notre-Dame-des-Landes? Pourquoi le gouvernement ne veut pas de cette solution collective?
Mais je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Sinon, pour une raison purement idéologique, c'est-à-dire que ce gouvernement semble animé, enfin est animé, disons-le, d'une idéologie capitaliste, individualiste. Qu'est-ce que ça veut dire capitaliste? Qu'est-ce que ça veut dire individualiste? C'est-à-dire qu'on considère que le bonheur de la société, son bien-être, sa prospérité va découler de l'action de chacun, chacune, chacun étant dans la seule recherche de son intérêt propre. Et c'est cette espèce de main invisible qui va faire en sorte que tout le monde, l'action de chacun, chacune, va contribuer à la prospérité commune. Ça, c'est cette vision idéologique qui est philosophique. Hein. Le mot idéologique n'est pas en soi péjoratif.
Oui, oui.
Et je crois que monsieur Macron, monsieur Philippe, monsieur Hulot, madame Klein sont animés de cette idéologie.
Madame Klein, c'est la préfète
de Loire-Atlantique. Et face à ça, ou contre ça, eh bien, il y a une idée de coopération, de collaboration, de collectivité, qui a aussi beaucoup de racines philosophiques et qui dit que pour bien agir, pour trouver l'harmonie, pour trouver aussi la réponse à la question écologique, et ça c'est absolument important, eh bien, il faut être en coopération, il faut chercher à travailler ensemble avec des liens différents.
Il y a l'exemple du Larzac dont nous parlons, on va aller voir un autre exemple à l'étranger avec Gérald Roux. Bonjour Gérald.
Bonjour à tous.
L'occupation de terres agricoles, c'est comment ? En Espagne, il existe un exemple en Andalousie.
Oui, entre Séville et Cordoue, à Somonte, une ferme sur un plateau qui est brûlé par le soleil. L'endroit est occupé depuis 6 ans par des jornaleros, c'est-à-dire des ouvriers agricoles, des journaliers qui veulent cultiver autrement, bio, avec une organisation communautaire.
Pourquoi cette terre, précisément ?
Alors, à l'origine, il n'y avait pas là-bas de projet d'aéroport comme à Notre-Dame-des-Landes. En fait, le gouvernement andalou, qui est propriétaire de cet endroit de 400 hectares, voulait le vendre aux enchères. Les opposants à cette vente redoutaient que les terres aillent à de grands propriétaires. Donc, en 2012, ils envahissent l'endroit. Ils ne sont même pas une dizaine en permanence sur place, mais ils tournent, ce qui fait qu'ils sont plusieurs dizaines, en fait, à venir travailler à tour de rôle sur les terres.
Et comment ça se passe sur ce site ?
Les jornaleros travaillent la terre dans des conditions dures, précaires. Ils font pousser du blé, de l'orge, des légumes. Ils sont quelques dizaines de brebis. Ils se nourrissent avec leur production et ils vendent le surplus dans des marchés locaux ou directement à des consommateurs qui viennent avec leur panier. Ces militants appartiennent au SAT, SAT, le syndicat andalou des travailleurs, qui est marqué très à gauche. Ils demandent que la terre soit cédée par le gouvernement et qu'elle appartienne ensuite à tout le monde, avec une coopérative. Pour le syndicat, une telle organisation permettrait de faire travailler les chômeurs des environs, victimes de la crise économique en Espagne, qui a été très dure. Il y a, je vous le rappelle, 25% de taux de chômage en Andalousie.
Que répondent les autorités espagnoles ?
Elles envoient la garde civile, qui a évacué Somonte à plusieurs reprises depuis 6 ans. Au début de l'année, 48 personnes sont passées en jugement pour occupation illégale. Elles ont été acquittées. Le gouvernement andalou a fait appel et en attendant, l'occupation se poursuit.
Merci beaucoup Gérald Roux. Et Eddy Fougier, c'est vrai que ça nous rappelle furieusement Notre-Dame-des-Landes, cet exemple andalou. On voit aussi que quand le gouvernement essaye de présenter les occupants du site en Loire-Atlantique comme des marginaux, finalement ce sont des projets qui peuvent avoir une réalité ailleurs et qui peuvent se multiplier.
Oui, on pourrait multiplier les exemples parce que effectivement il y a l'exemple andalou qui vient d'être très bien expliqué, mais vous avez les paysans sans terre au Brésil qui eux aussi occupent un certain nombre de terres qui ne sont pas exploitées dans les grandes exploitations brésiliennes où ils vont effectivement créer déjà récolter, exploiter ces terres et puis créer des communautés alternatives. On peut penser au Chiapas aussi au sud du Mexique avec les apatistes. Donc je dirais qu'il y a une multiplication des exemples de ce type. Avec la grande difficulté pour les gouvernements, effectivement, de régler ces questions uniquement par la force et par l'évacuation, parce que les personnes reviennent et parce qu'il y a aussi la tentation dans une partie de la population de sortir du système. Parce que c'est ça qu'expliquait Hervé Kempf tout à l'heure, par rapport au capitalisme.
Nicolas Hulot dit « Ne confondons pas écologie et anarchie ». Est-ce qu'il est dans le vrai, le ministre de la Transition écologique Hervé Kempf ?
Non, franchement, monsieur Hulot se trompe. Et on a fait un travail ce matin de regarder. En fait, tous les penseurs de l'écologie ont été directement ou indirectement liés à l'anarchie. Pourquoi ? Ils disent, Kropotkine, Élisée Reclus, qui est vraiment un penseur français, d'un théoricien de l'écologie, Ivan Illich, Murray Bookchin aux États-Unis, André Gors, tous mettent en question la centralisation de l'État, les rapports hiérarchiques et imaginent une société dans laquelle des communautés humaines beaucoup plus restreintes, de nombre d'ampleur beaucoup plus petites, travailleraient ensemble et seraient beaucoup plus coopératives. C'est le « small is beautiful » d'un autre écologiste, M. Schumacher. Et donc, l'écologie est tout à fait liée sur le plan oui. de la pensée à l'anarchie, qui n'est pas conçue comme étant la violence, etc., comme on le fait croire à l'opinion publique souvent, mais qui est une façon d'envisager la société de manière totalement différente, sans rapport hiérarchique, sans rapport de pouvoir, et en s'appuyant sur la solidarité, la responsabilité commune des uns et des autres.
Merci à tous, en tout cas, d'avoir été avec nous sur France Info pour nous parler de votre vision et de votre analyse sur ce mouvement à Notre-Dame-des-Landes. Je rappelle qu'une réunion va avoir lieu, dernière réunion selon la préfète, demain à Nantes avec les zadistes et les pouvoirs publics, et l'ultimatum donc pour régulariser la situation est fixé aux occupants à lundi prochain, 23 avril. Merci Hervé Kempf, rédacteur en chef de Reporter.net. Votre livre Notre-Dame-des-Landes est paru aux éditions du Seuil. Et merci à vous, Eddy Fougier, politologue spécialiste des mouvements protestataires.